Le président de Curval était le doyen de la société. Âgé de près de 60 ans et singulièrement usé par la débauche, il n'offrait presque plus qu'un squelette. Il était grand, sec, mince, des yeux creux et éteints, une bouche livide et malsaine, le menton élevé, le nez long. Couvert de poils comme un satyre, un dos plat, des fesses molles et tombantes qui ressemblaient plutôt à deux sales torchons flottant sur le haut de ses cuisses, la peau en était tellement flétrie, à force de coups de fouet qu'on la tortillait autour des doigts sans qu'il le sentît. Au milieu de cela s'offrait, sans qu'on eût la peine d'écarter, un orifice immense dont le diamètre énorme, l'odeur et la couleur le faisaient plutôt ressembler à une lunette de commodité qu'au trou d'un cul. Et pour comble d'appât, il entrait dans les petites habitudes de ce pourceau de Sodome de laisser toujours cette partie-là dans un tel état de malpropreté qu'on y voyait sans cesse autour un bourrelet de 2 pouces d'épaisseur. Au bas d'un ventre, aussi plissé que livide et mollasse, on apercerait, dans une forêt de poils, un outil qui, dans l'état d'érection, pouvait avoir environ 8 pouces de long sur 7 de pourtour. Mais cet état n'était plus que fort rare, et il fallait une furieuse suite de choses pour le déterminer. Cependant, il avait encore lieu au moins 2 ou 3 fois de la semaine, et le président, alors, enfilait indistinctement tous les trous, quoique celui du derrière d'un jeune garçon lui fût infiniment plus précieux. Le président s'était fait circoncire, de manière que la tête de son vis n'était jamais recouverte, cérémonie qui facilite beaucoup la jouissance et à laquelle tous les gens voluptueux devraient se soumettre. Mais l'un de ses objets est de tenir cette partie plus propre. Il s'en fallait beaucoup qu'il se trouvât rempli chez Curval, car aussi sale en cette partie-là que dans l'autre, cette tête décalotée, déjà naturellement fort grosse, là devenait plus ample d'au moins 1 pouce de circonférence. Également malpropre sur toute sa personne, le président, qui à cela joignait des goûts pour le moins aussi cochons que sa personne, devenait un personnage dont l'abord assez malodorant eût pu ne pas plaire à tout le monde. Mais ses confrères n'étaient pas gens à se scandaliser pour si peu de choses, et on ne lui en parlait seulement pas. Peu d'hommes avaient été aussi lestes et aussi débauchés que le président, mais entièrement blasés, absolument abrutis, il ne lui restait plus que la dépravation et la crapule du libertinage. Il fallait plus de 3 heures d'excès et d'excès les plus infâmes pour obtenir de lui un chatouillement voluptueux. Quant à la décharge, quoiqu'elle eût lieu chez lui bien plus souvent que l'érection et presque 1 fois tous les jours, elle était cependant si difficile à obtenir où elle n'avait lieu qu'en procédant à des choses si singulières et souvent si cruelles ou si malpropres que les agents de ses plaisirs y renonçaient souvent et de là naissait chez lui une sorte de colère lubrique qui quelquefois, par ses effets, réussissait mieux que ses efforts. Curval était si tellement englouti dans le bourbier du vice et du libertinage qu'il lui était devenu comme impossible de tenir d'autres propos que de cela. Il en avait sans cesse les plus sales expressions à la bouche comme dans le cœur, et il les entremêlait le plus énergiquement de blasphèmes et d'imprécations fournies par la véritable horreur qu'il avait, à l'exemple de ses confrères, pour tout ce qui était du ressort de la religion. Ce désordre d'esprit, encore augmenté par l'ivresse presque continuelle dans laquelle il aimait à se tenir, lui donnait depuis quelques années un air d'imbécilité et d'abrutissement qui faisait, prétendait-il, ses plus chères délices. Né aussi gourmand qu'ivrogne, lui seul était en état de tenir tête au duc, et nous le verrons, dans le cours de cette histoire, faire des prouesses en ce genre qui étonneront sans doute nos plus célèbres mangeurs. Depuis 10 ans, Curval n'exerçait plus sa charge. Non seulement il n'en était plus en état, mais je crois même que, quand il l'aurait pu, on l'aurait prié de s'en dispenser toute sa vie. Curval avait mené une vie fort libertine. Toutes les espèces d'écarts lui étaient familiers, et ceux qui le connaissaient particulièrement le soupçonnait fort de n'avoir jamais dû qu'à 2 ou 3 meurtres exécrables la fortune immense dont il jouissait. Quoi qu'il en soit, il est très vraisemblable à l'histoire suivante que cette espèce d'excès avait l'art de l'émouvoir puissamment, et c'est à cette aventure qui, malheureusement, eut un peu d'éclat, qu'il dut son exclusion de la cour. Nous allons la rapporter pour donner au lecteur une idée de son caractère. Curval avait dans le voisinage de son hôtel un malheureux portefeuille qui, père d'une petite fille charmante, avait le ridicule d'avoir des sentiments. Déjà 20 fois des messages de toutes les façons étaient venus essayer de corrompre ce malheureux et sa femme par des propositions relatives à leur jeune fille sans pouvoir venir les ébranler. Et Curval, directeur de ses ambassades et que la multiplication des refus ne faisait qu'irriter, ne savait plus comment s'y prendre pour jouir de la jeune fille et pour la soumettre à ses libidineux caprices, lorsqu'il imagina tout simplement de faire rouer le père pour amener la fille dans son lit. Le moyen fut aussi bien conçu qu'exécuté. 2 ou 3 coquins, gagés par le président, s'en mêlèrent. Et avant la fin du mois, le malheureux portefeuille fut enveloppé dans un crime imaginaire que l'on eut l'air de commettre à sa porte et qui le conduisit tout de suite dans les cachots de la conciergerie. Le président, comme on l'imagine bien, s'empara bientôt de cette affaire et comme il n'avait pas envie de faire traîner l'affaire, en 3 jours, grâce à ses coquineries et à son argent, le malheureux portefeuille fut condamné à être roué vif sans qu'il eût jamais commis d'autre crime que celui de vouloir garder son honneur et de conserver celui de sa fille. Sur ces entrefaites, les sollicitations recommencèrent. On fut trouver la mère, on lui représenta qu'il ne tenait qu'à elle de sauver son mari, que si elle satisfaisait le président, il était clair qu'il arracherait par là son mari au sort affreux qui l'attendait. Il n'était plus possible de balancer, la femme consulta. On savait bien à qui elle s'adresserait, on avait gagné les conseils, et ils répondirent sans tergiverser qu'elle ne devait pas hésiter un moment. L'infortunée amène elle-même sa fille en pleurant aux pieds de son juge. Celui-ci promet tout ce qu'on veut, mais il était bien loin d'avoir envie de tenir sa parole. Non seulement il craignait, en la tenant, que le mari sauvé ne vînt à faire de l'éclat en voyant à quel prix on avait mis sa vie, mais le scélérat trouvait même encore un délice bien plus piquant à se faire donner ce qu'il voulait sans être obligé de rien tenir. Il s'était offert sur cela des épisodes de scélératesse à son esprit dont il sentait accroître sa perfide lubricité. Et voici comment il s'y prit pour mettre à la scène toute l'infamie et tout le piquant qu'il put. Son hôtel se trouvait en face d'un endroit où l'on exécute quelquefois des criminels à Paris, et comme le délit s'était commis dans ce quartier-là, il obtint que l'exécution serait faite sur cette place en question. À l'heure indiquée, il fit trouver chez lui la femme et la fille de ce malheureux. Tout était bien fermé du côté de la place, de manière qu'on ne voyait, des appartements où il tenait ses victimes, rien du train qui pouvait s'y passer. Le scélérat, qui savait l'heure positive de l'exécution, prit ce moment-là pour dépuceler la petite fille dans les bras de sa mère, et tout fut arrangé avec tant d'adresse et de précision que le scélérat déchargeait dans le cul de la fille au moment où le père expirait. Dès que son affaire fut faite, « Venez voir, » dit-il à ses 2 princesses en ouvrant une fenêtre sur la place, « venez voir comme je vous ai tenu parole. » Et les malheureuses virent, l'une son père, l'autre son mari, expirant sous le fer du bourreau. Toutes 2 tombèrent évanouies, mais Curval avait tout prévu. Cet évanouissement était leur agonie. Elles étaient toutes 2 empoisonnées, et elles ne rouvrirent jamais les yeux. Quelques précautions qu'il prit pour envelopper toute cette action des ombres du plus profond mystère, il en transpira néanmoins quelque chose. On ignora la mort des femmes, mais on le soupçonna vivement de prévarication dans l'affaire du mari. Le motif fut à moitié connu, et de tout cela, sa retraite résulta enfin. De ce moment, Curval, n'ayant plus de décorum à garder, se précipita dans un nouvel océan d'erreurs et de crimes. Il se fit chercher des victimes partout, pour les immoler à la perversité de ses goûts. Par un raffinement de cruauté atroce, et pourtant bien aisé à comprendre, la classe de l'infortune était celle sur laquelle il aimait le plus à lancer les effets de sa perfide rage. Il avait plusieurs femmes qui lui cherchaient nuit et jour, dans les greniers et dans les galetas, tout ce que la misère pouvait offrir de plus abandonné, et sous le prétexte de leur donner des secours, ou il les empoisonnait, ce qui était un de ses plus délicieux passe-temps, ou il les attirait chez lui et les immolait lui-même à la perversité de ses goûts. Hommes, femmes, enfants, tout était bon à sa perfide rage, et il commettait sur cela des excès qui l'auraient fait porter 1000 fois sa tête sur un échafaud, sans son crédit et son or qui l'en préservèrent 1000 fois. On imagine bien qu'un tel être n'avait pas plus de religion que ses 2 confrères. Il la détestait sans doute aussi souverainement, mais il avait jadis plus fait pour l'extirper dans les cœurs car, profitant de l'esprit qu'il avait eu pour être comme elle, il était auteur de plusieurs ouvrages dont les effets avaient été prodigieux, et ses succès, qu'il se rappelait sans cesse, étaient encore une de ses plus chères voluptés. Plus nous multiplions les objets de notre jouissance,